Le musée d'Orsay inaugure une plateforme de réflexion et de débat, l'atelier de la culture et du développement durable. Quel lien pouvons-nous tisser entre la modernité que le XIXe siècle expérimente et la modernité que nous avons à construire? Les préoccupations que connaissent les artistes du XIXe siècle face aux bouleversements qui affectent tous les pans de la société dans l'élan de la révolution industrielle font écho aux défis de notre temps. Le musée d'Orsay inaugure ainsi ce quatrième pilier du développement durable qu'est la culture, en partenariat notamment avec le Comité 21 et les Ateliers de la Terre. Avec Guillaume Loger, responsable des partenariats du musée d'Orsay, Laurence Madeline, chef du service culturel du musée d'Orsay, et Bettina Laville, cofondatrice du Comité 21.
J'ai une très très grande et très profonde affection pour Gauguin parce que avec tous ses défauts, avec son égoïsme épouvantable, avec cette façon de ne voir que lui, au fond il a été d'une très grande sincérité et il a voulu vraiment aller au plus profond de l'inconnu et du primitif. Pour ça, j'irai vers lui. Et aussi Van Gogh, parce que Van Gogh a ressenti la peine de l'homme, de l'humain, et a voulu la prendre et a voulu la guérir.
L'économique, le social, l'environnemental, aux trois piliers que l'on s'est dans un premier temps accordé à reconnaître au développement durable, s'adjoint désormais l'indispensable pilier de la culture, patrimoine commun de l'humanité, Guillaume Loger, responsable des partenariats au musée d'Orsay.
L'art, c'est ce qui anticipe, c'est ce qui montre des perspectives, c'est ce qui permet de donner du sens, c'est ce qui permet d'avoir un regard sur le monde.
C'est à ce titre que le musée d'Orsay vient d'inaugurer une plateforme de réflexions et de débats, l'atelier de la culture et du développement durable. Bettina Laville, fondatrice avec Simone Veil du Comité 21, le Comité 21 partenaire de l'atelier de la culture et du développement durable.
L'art, c'est une réflexion qui ne s'interrompt jamais sur la fragilité des choses et des êtres. Et l'interrogation sur la durabilité, c'est le fait de les rendre peut-être... On ne peut pas les rendre plus fragiles par rapport au caractère de passage de la vie humaine, mais on peut les rendre, en revanche, pendant ce passage, plus supportables pour les pays pauvres et plus responsables pour les pays du Nord.
Le développement durable et la culture, une alliance contre nature? Plutôt le contraire. Aristote plaçait le poète au cœur de la cité. Les studioli de la Renaissance demandaient à l'art de servir le prince à se réaliser, à titre personnel et à conduire sa politique. Les Lumières ont permis l'apparition et le développement des musées publics, auxquels elles assignent la mission de guider le peuple. Au XIXe siècle, avec le bouleversement du monde, en témoigne le musée d'Orsay, la période est foisonnante. Depuis Jean-Baptiste Godin, l'inventeur des célèbres poêles, qui était fourriériste et soulignait la nécessité d'éducation artistique populaire, jusqu'à Manet, qui disait qu'il fallait vivre avec son temps, Odilon Redon, le triomphe de l'esprit sur la matière, ou encore Arthur Baldwin, l'influence de l'intérieur sur le mental, à cette différence de taille que le XIXe siècle se vivait sur l'ouverture, croyait-on, sur un monde infini.
Aujourd'hui, nous connaissons les limites du progrès.
Bettina Laville.
Et au XIXe siècle, il y avait très peu de gens qui s'interrogeaient. On avait plutôt une foi dans le fait que la science apporterait forcément le progrès. Donc ça, c'est très différent. Et je crois, si vous voulez, que là, nous avons effectivement un chemin qui a changé. Je ne suis quand même pas du tout des gens qui prônent la décroissance ou qui prônent la renonciation au progrès, parce qu'il n'y a pas de chemin humain sans progrès. Mais simplement, on a habillé le progrès sans du tout s'interroger sur ce qu'on appelle les externalités de ce progrès, qu'on d'ailleurs, on ne fait pas la plupart du temps. On commence, Dieu merci, à faire payer à ceux qui les causent. Donc c'est vrai qu'il y a une réflexion plus importante, je crois, au XXIe siècle et dans toute la seconde partie du XXe, sur la responsabilité.
Effectivement, on a quelque chose à tirer de cela.
Laurence Madeline, chef du service culturel du musée d'Orsay.
Parce que de l'inquiétude ou de l'optimisme des artistes, on a tout intérêt. Les artistes peuvent être, se révèlent être parfois des prophètes. Il nous faut énormément de temps pour comprendre que quand Gauguin s'inquiète de la disparition de la culture des Maoris ou des Marquisiens, il touche là un point essentiel et qui est quelque chose qui doit nous préoccuper et qui devient de plus en plus grave.
Et évidemment, on peut attendre ça de l'art aujourd'hui.
Guillaume Loger.
Il n'y a pas de raison que l'art d'aujourd'hui, d'ailleurs, ne l'ait pas, ce foisonnement-là. Il y a vraiment cette dimension de dire que dans l'art, on a déjà les prémices de ce que sera demain, donc il faut effectivement se mettre à l'écoute de l'art d'aujourd'hui.
La vision du monde n'est en quelque sorte pas une vision de l'esprit. En témoigne, par exemple, cette amitié peu connue entre Monet et Georges Clemenceau.
C'était de très grands amis. Monet a été bouleversé par la guerre. Il a vu là, à la porte de sa maison à Giverny, le bouleversement du monde, la fin d'un monde, l'hécatombe et la capacité que l'homme avait réussi à créer par les armes, par les bombes, par les avions, sa propre destruction, et non seulement sa destruction, mais celle de la nature, celle du paysage. Et donc, Monet a été fortement impressionné, et en même temps, il avait cette très vieille amitié pour Clemenceau. N'oublions pas que Clemenceau est celui qui a publié le J'accuse de Zola, et Monet avait été vraiment profondément solidaire avec l'acte de Clemenceau. Donc il y avait une très vieille amitié, quelque chose, une vision du monde où l'humanité devait être bonne, profonde, attentive à l'autre et juste. Donc il y avait cette très vieille amitié. Je pense qu'il a voulu célébrer la victoire de son vieil ami, mais qu'en même temps, lui-même avait une vision beaucoup plus pessimiste. Il se rendait compte du lieu effroyable où l'homme était capable d'aller avec une guerre.
Le développement durable ne saurait se faire à l'économie de la culture, d'où cette initiative du musée d'Orsay de créer une plateforme de réflexion et de débat en partenariat serré, notamment avec le comité 21 et les ateliers de la Terre, l'atelier de la culture et du développement durable.
C'est cette période, 1848-1914, dans ce mouvement de la révolution industrielle, dans tous ces bouleversements où les villes se transforment, où des nouveaux modes de production apparaissent, de nouveaux rapports sociaux, où l'emprise de l'homme sur la nature change également. C'est cette période-là, avec les artistes qui réagissent par rapport à ça, qui prennent position, ceux qui l'exaltent, ceux qui en ont peur, ceux qui proposent, c'est toutes ces voix-là que l'on veut porter aux visiteurs pour lui dire que c'est aussi un lieu où on peut construire le monde de demain. Et ça, aujourd'hui, c'est un nom, c'est le développement durable.
Ce que nous vivons aujourd'hui se met dans le domaine de la prise de conscience, comme dans beaucoup d'autres domaines, tout ça se met en place au cours du 19e siècle. Le 19e siècle est la période des grands bouleversements. Révolution industrielle, exode rural, les moments où l'homme intervient de plus en plus fortement sur la nature.
Quand on prend les racines du mouvement, que ce soit la conférence de Stockholm ou bien à Rio, un peu moins ensuite, il faut bien le dire, à Johannesburg, nous savons tous que sans approfondissement culturel de cette notion et sans respect des cultures, quelles qu'elles soient, nous n'arriverons jamais, comme d'ailleurs à chaque fois qu'il y a une aventure humaine, elle doit être colorée par la culture. Donc sans la culture, nous n'arriverons jamais à promouvoir, comme on dit, le développement durable.
L'atelier de la culture et du développement durable s'ouvre, bien sûr, aux contemporains.
C'est pérenniser les visites qu'on propose, pérenniser la dimension éducative, faire venir des scolaires pour leur montrer aussi que le musée peut être vécu de cette façon-là, pour se construire soi-même et construire le monde. C'est proposer des accrochages spécifiques, comme celui que l'on prépare, qui s'appelle Construire la nature, qu'on espère proposer bientôt. C'est travailler avec les personnes qui s'associeront à l'atelier. Je pense aux ateliers de la Terre, qui présenteront à Evian un focus sur la culture suite à la rencontre qu'on a eue et aux discussions qu'il y a pu avoir. Et le musée d'Orsay sera présent. C'est entrer dans cette dynamique, organiser des conférences comme on a là, et beaucoup de projets ce soir naissent et sont déjà en cours ici avec différents partenaires pour faire des moments thématiques au-delà de cette coloration permanente qu'aura Orsay en proposant des choses tout au long de l'année sur le développement durable. Et puis c'est la promesse aussi d'Internet de retrouver sur notre site en téléchargement des textes, des éléments sur cette thématique.
Côté artiste, il y a un foisonnement, un certain fil durable.
J'ai beaucoup de passion pour les écrivains. J'ai suivi pas mal d'artistes contemporains parce qu'à un moment donné, j'ai appartenu à la délégation aux arts plastiques. C'est vrai que j'ai été toujours assez impressionnée par l'œuvre de Beuys. Hein. C'est important pour moi. J'ai beaucoup aussi suivi ce que faisait Pennon à un moment donné. Le rapport avec la nature pour parler des écrivains, Marguerite Yourcenar, a toujours été pour moi quelque chose d'extraordinaire, d'une part. Et puis je pense quand même qu'on ne peut pas être attaché à la nature et à sa protection sans relire Rousseau une fois par an.